Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le cinquième dimanche. Un jour, alors que la foule se presse autour de lui pour écouter la parole de Dieu, Jésus se tient sur le bord du lac de Génézareth. Il voit deux barques qui se trouvent au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus pour laver leurs filets. Étant monté dans l'une des barques, celle qui appartient à Simon, il lui demande de s'éloigner du rivage et d'aller un peu au large. S'étant assis, il enseigne la foule depuis la barque. Quand il a fini de parler, il dit à Simon,
« Va au large, en eau profonde, et descendez vos filets pour prendre du poisson. »
Simon lui répond,
« Maître, nous nous sommes fatigués toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais descendre les filets. »
Ayant fait cela, ils prennent une très grande quantité de poisson. Leurs filets se déchirent. Ils font signe à leurs compagnons qui sont dans l'autre barque de venir leur donner un coup de main. Ils viennent et remplissent les deux barques, à tel point qu'elles s'enfoncent. Voyant cela, Simon-Pierre tombe aux pieds de Jésus en disant,
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, l'effroi l'a saisi, lui et tous ceux qui sont avec lui, à cause de la prise des poissons qu'ils ont capturés. C'est la même chose pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui sont les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon,
« Ne frémis pas. « Maintenant, ce sont des humains que tu prendras vivants. »
Alors, ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivent.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. « Éloigne-toi de moi, Seigneur. » Comment comprendre une telle demande? Quel sens Luc donne-t-il à cette réaction de Simon, alors qu'il va devenir Simon-Pierre, le chef de l'Église?
Eh bien, regardons d'abord où se situe ce texte dans le récit évangélique de Luc. À travers l'épisode de Nazareth, au chapitre 4, Luc a d'abord décrit, comme en raccourci, ce que sera toute la mission de Jésus. En effet, le premier succès auprès des foules se transformera bientôt en rejet de cet évangile de la grâce. Après cette introduction, Luc raconte les premières prédications en Galilée. En effet, Jésus s'établit à Capharnaüm, une cité qui est située au bord du lac de Génézareth. Et là, il prêche et fait des guérisons. Mais il veut aller porter son message de la miséricorde aux autres cités, et c'est pour cette mission que Jésus va se chercher des collaborateurs.
La foule se presse autour de lui pour écouter la parole de Dieu.
Eh bien voilà le décor de cet épisode, un décor qui n'est pas du tout secondaire, mais qui au contraire va tracer le sens de l'événement. En effet, de même que le repas des pains multipliés prendra place au soir d'une longue journée de prédication, eh bien de même la pêche abondante viendra prolonger l'enseignement de Jésus. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Va au large. » L'action de Jésus, le geste qu'il pose, devra se comprendre comme une façon de concrétiser son enseignement, d'en donner le sens. C'est un mime de la parole. Le pain est multiplié pour nourrir les foules. Et bien, de même que Jésus a nourri de la parole de vie divine par son enseignement, de même que l'Évangile nourrira l'Église tout au long de l'histoire. La pêche aussi aura un sens en lien avec la parole. Jésus avait sans doute l'habitude d'utiliser une barque dans ses prédications. Il se dessert ainsi de la pression de la foule et se donne le moyen d'être mieux entendu. Le lac abonde en effet en petites anses circulaires qui forment des arénas naturelles où la parole se propage et s'amplifie. Jésus commente la parole de Dieu, la Torah, comme l'appellent les Juifs. À la manière d'un rabbi, il donne sa façon personnelle d'interpréter le message divin. Mais les autres rabbis ont l'habitude d'appuyer leurs paroles sur l'autorité de leurs prédécesseurs, comme Rabbi Intel a dit. C'est une expression qui est consacrée dans l'enseignement des rabbis. Et cela manifeste d'ailleurs la tradition, la transmission qui se fait de génération en génération, transmission de cette parole de Dieu. Cela en montre le caractère vivant, car chaque génération a son interprétation qui lui est propre. Eh bien, les foules étaient atturées parce que Jésus parlait avec autorité.
Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité.
L'évangile de Matthieu traduira cette autorité par des formules qu'on connaît bien. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, eh bien moi je vous dis. » Et cette autorité de Jésus se manifestera aussi par les gestes de guérison qu'il opère.
Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades les lui amenèrent. Et lui, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Après que Jésus eut chassé un esprit démoniaque d'un homme, l'effroi s'empare des assistants qui se disent « Quelle est cette parole ?» Il commande aux esprits impurs avec autorité et puissance. Va au large en eau profonde.
Comme il est courant dans les écrits bibliques, la mer, les eaux profondes et obscures, sont le lieu symbolique des forces des ténèbres, le lieu des puissances du mal. Citons le psaume 73 qui parle des victoires de Dieu sur le mal.
Tu as maîtrisé la mer par ta force, fracassant la tête des dragons sur les eaux, tu as écrasé les têtes de Léviathan.
Évoquons aussi l'ange de l'Apocalypse.
Je vis un ange qui descendait du ciel, il avait à la main la clé de l'abîme. Il s'empara du dragon qui est le diable et Satan. Il le précipita dans l'abîme qui scella sur lui.
Même si nous sommes ici sur les bords d'un lac, le lac de Génézareth, on sait que les gens de la région appellent ce lac la mer de Galilée. C'est là que Simon est invité à aller descendre ses filets. Voilà indiqué par Jésus la mission qu'il proposera à ceux qui vont devenir ses collaborateurs. Comme lui, ils devront commander avec son autorité et sa puissance aux esprits du mal, relever ceux que le mal a terrassés, imposer les mains aux malades et les guérir, annoncer à tous l'évangile de la miséricorde de Dieu Père. Le livre des Actes des Apôtres décrira comment Pierre et ses compagnons vont accomplir cette tâche après le départ de Jésus. Donnons donc quelques exemples tirés dans le livre des Actes.
Pierre et Jean montaient au temple. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Quand il vit Pierre et Jean, il les sollicita pour obtenir une aumône. Et Pierre lui dit, « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. D'un bond, il fut debout et marchait.
On en venait à sortir les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits ou des civières, afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. La multitude accourait aussi des localités voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens que tourmentaient des esprits malins, et tous étaient guéris.
Pierre leur dit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des fautes, et vous recevrez le souffle spirituel divin. »
Chaque jour, au temple comme à domicile, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer l'évangile de Jésus Messie.
Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce d'amour était à l'œuvre chez eux tous.
Dans le récit de Matthieu, on retrouvera aussi l'image du filet et de la pêche. Le règne de Dieu est semblable à un filet qu'on jette en mer et qui rassemble toutes sortes de poissons. Et le récit évangélique de Jean dira que Jésus donnera sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Voilà donc l'appel que Jésus lance à Simon et à ses compagnons. Maintenant, ce sont des humains que tu prendras vivants.
Mais sur ta parole, je vais descendre les filets.
Regardons maintenant la réaction de Simon à l'appel lancé par Jésus. La situation de Simon et de ses compagnons est aussi symbolique. Ils ont peiné et ils n'ont pris aucun poisson. La description se rapproche du récit de Matthieu qui parle des foules qui sont comme des brebis sans pasteur et donc dispersées et qui parle de la moisson, c'est-à-dire le rassemblement des fils et des filles de Dieu qui a besoin d'ouvriers.
La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson.
Eh bien, que décrivent ces images? Elles nous disent la situation qui est celle du peuple de Dieu au temps de Jésus. Le pays est occupé par les forces romaines et les Juifs sont divisés entre eux devant cette situation d'oppression. Certains, en effet, pactisent plus ou moins avec l'occupant, comme les familles riches, les Sadducéens. D'autres offrent une résistance passive et morale, comme les pharisiens. D'autres, enfin, pratiquent la guérilla contre l'armée romaine, comme ceux qui deviendront plus tard les zélotes. Mais, plus profondément encore, c'est sans doute au plan de la foi, au plan de la vision de Dieu, que les Juifs, les compatriotes de Jésus, sont dispersés et divisés. Dieu s'occupe-t-il vraiment de son peuple, se demandent certains, ou bien l'a-t-il abandonné? Dieu est-il vraiment puissant? Comment Dieu peut-il laisser sa gloire ternie par l'occupation de son peuple? Et l'occupation dure depuis près de 100 ans. Ou bien, cette situation est-elle un châtiment de Dieu pour les fautes d'Israël? Dieu ne devrait-il pas intervenir pour juger les méchants, les détruire et ainsi purifier son peuple? Ou bien encore, est-ce que l'on est dans le temps de la grâce et de la miséricorde de Dieu? Voilà toutes les situations variées, les façons diverses de comprendre la situation. Simon, lui, a peut-être été conquis par la prédication de Jésus qui parle de réaliser ce temps de la grâce et de la réconciliation. Il a peut-être été sensible à l'autorité de ce rabbi de Nazareth qui ne parle pas comme les autres rabbis. Pour lui, celui qui exprime la Torah de Dieu avec une telle autorité doit être sans doute très crédible. « Maître, c'est sur ta parole que je vais descendre les filets. » Et c'est ce qu'il fait, et la pêche va être abondante. Simon se trouve ainsi mis en présence d'une force de vie surnaturelle, et il a confiance que cette force de Jésus sera capable de vaincre tout ce qui divise son peuple et qui lui apporte une sorte de mort. Et Simon retrouve la réaction de ceux qui sont mis en présence du divin.
Voyant cela, Simon-Pierre tombe aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
Rappelons-nous la réaction de Moïse devant le buisson ardent.
Le Seigneur Dieu dit à Moïse « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse se voila la face car il craignait de regarder Dieu.
Et nous avons une attitude semblable dans le livre du prophète Isaïe lorsqu'Isaïe se trouve dans le temple.
« Je vis le Seigneur Dieu assis sur un trône élevé. Sa traîne remplissait le temple. Des anges criaient « Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant. » Je dis alors « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. »
Mais comment comprendre de semblables réactions? Devant la force rayonnante de la sainteté, on se sent pécheur. La première réaction devant celui qu'on découvre saint est sans doute de se juger soi-même, sinon de se sentir jugé. On se sent petit, on mesure davantage sa faiblesse, sa pauvreté, sa misère. Et c'est pourquoi il faut être invité à s'approcher, ne frémis pas, ne crains pas. Il ne s'agit pas d'une peur panique, mais de cet effroi, de ce frisson intérieur dont on est saisi devant ce qui est grand et sacré. Et pourtant, Dieu, le Dieu de Jésus, est celui qui veut s'approcher de nous. et qui pour cela se fait petit et pauvre. Car Dieu qui n'est qu'amour ne peut qu'être humble. Aimer, en effet, ce n'est pas déceler les imperfections de celui qu'on aime, c'est au contraire aider l'être aimé à faire grandir en lui le beau et le bon, qui sont en lui comme des promesses de vie et d'amour. Voilà ce que peut réaliser en nous la parole de Jésus, car elle est une parole dans laquelle il nous livre tout son être et qui nous communique ainsi sa force d'aimer. Cet amour de Jésus nous rejoint jusque dans nos ténèbres, jusque dans notre péché le plus caché. Pour dire cela, la tradition chrétienne dira que le Christ est descendu dans les enfers. En effet, le mot latin inferi, enfer, signifie justement les eaux inférieures, comme ce lac et ses eaux profondes qui renferment les puissances du mal. Mais si le Christ descend dans l'enfer du mal, c'est pour remettre debout ceux dont le péché a fait des morts spirituelles. La pêche en eau profonde est donc le symbole de l'activité de guérison et de libération qui est celle de Jésus et qui devra devenir celle de ses disciples. La pêche rassemble les poissons pour les sortir de ces eaux infernales, comme l'Évangile veut rassembler les êtres humains en les arrachant à l'enfer du mal et de la mort spirituelle.
Jésus dit à Simon, « Ne frémis pas, maintenant ce sont des humains que tu prendras vivants. »
On aura noté que le récit est centré sur Simon. Ses compagnons sont certes mentionnés, mais toujours en référence à lui. Jacques et Jean ont droit à être nommés, mais même le frère de Simon, André, est oublié. Enfin, Luc donne à Simon le surnom de Pierre, roc, que Jésus lui attribuera. Cela n'est-il pas pour signifier que Simon est ici le représentant de tout disciple, il est le roc, la pierre, sur laquelle se construira l'assemblée fraternelle des disciples de Jésus. Rappelons-nous la parabole de la maison.
Celui qui vient à moi écoute mes paroles et les met en pratique, est comparable à celui qui bâtit sur le roc.
Jésus va concrétiser cette parabole à propos de Simon. Simon qui en effet a confessé sa foi en lui comme étant le Messie.
« Heureux es-tu, Simon. Je te déclare que tu es pierre, roc, et que sur cette pierre, ce roc, je bâtirai mon église, mon assemblée. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. »
Être pierre, être roc dans l'église, est donc une fonction qui symbolise ce que signifie être disciple de Jésus. Le disciple est en effet celui qui mise toute sa vie sur la parole du Maître. Dans le livre des Actes, Luc montrera la place de Pierre aux premières heures de la communauté. C'est en effet Pierre qui va prendre la parole au nom des disciples.
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Il y avait là un groupe d'environ 120 personnes, et il déclara. Alors s'éleva la voix de Pierre qui était là avec les 11, et il s'exprima en ces termes.
« Oh, certes, Pierre n'est pas parfait, on sait qu'il ira même jusqu'à renier Jésus lors de sa comparution devant le Sanhédrin. En cela, n'est-il pas d'ailleurs aussi le représentant de tous les disciples qui seront souvent eux aussi infidèles? Mais Jésus lui demandera, à partir de cette expérience même de sa faiblesse, de savoir relever les autres.
Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères.
pécheur d'homme. Ce mot a souvent pris dans l'histoire chrétienne une signification bien étroite d'agent recruteur. Le missionnaire devait convertir à tout prix pour sauver de la perdition tous ceux qui n'étaient pas baptisés. On jaugeait alors l'apostolat au nombre des baptêmes, des confessions. L'image de la pêche et des pêcheurs est-elle encore aujourd'hui compréhensible pour nos contemporains? Comment les chrétiens peuvent-ils être pêcheurs d'êtres humains, c'est-à-dire travailler à la libération des puissances de division et d'oppression pour bâtir la communion entre les humains? Lorsque l'on regarde notre monde, il y a certes de belles choses et qu'il ne faut pas occulter et ignorer, mais il y a aussi des drames. Tant de peuples qui s'entretuent en Algérie, en Irlande, au Cambodge, au Rwanda. Tant de jeunes de notre monde, de ce monde riche, et ces jeunes qui pourtant se suicident. Tant de familles déchirées, de couples désunis. Tant de gens exploités, vivant de misère. Contre cette marée de souffrance, qui pourra semer des graines de bonté et d'espérance? Contre ces forces de division et de destruction, qui vivra la réconciliation, la volonté de communion? Les gestes de solidarité, d'unité, sont trop souvent cachés et méconnus. Ils peuvent être, bien sûr, ceux de particuliers, mais aussi ceux de groupes, associations, syndicats, services, d'entraide, coopératives. Alors, posons-nous la question, le disciple de Jésus y est-il présent? En effet, l'Église de Jésus ne sera crédible aujourd'hui que si ses membres partagent les efforts qui sont faits pour faire advenir la paix, advenir la justice, pour que l'unité se tisse. Dans un monde pluraliste, où coexistent croyants et incroyants, il est important que chacun conjugue ses forces avec celles des autres, de quelque religion ou philosophie soit-il. En effet, partout où se bâtit la communion, le disciple de Jésus doit déceler l'Esprit divin qui est à l'œuvre. En effet, l'Esprit de Dieu travaille dans tous les cœurs de bonne volonté, même si ces cœurs ignorent ou méconnaissent Dieu. La tempête de verglas du siècle qui s'est abattue sur le Québec en 1998 nous a en effet donné de magnifiques exemples de solidarité et de générosité. Ceux d'infirmiers et d'infirmières, de bûcherons et de monteurs de lignes, des gens parfois venus de régions éloignées, ou bien des retraités reprenant du service. Ajoutons aussi combien de jeunes qui ont fait de longues journées pour préparer de la nourriture, pour servir, réconforter. N'oublions pas encore les artistes venant bénévolement animer les longues journées d'attente. On ne dira jamais assez comment beaucoup ont voulu et su faire leur part, souvent discrètement. Mais si les chrétiens doivent travailler avec tous les humains de bonne volonté, il faut aussi que notre Église, notre communauté de disciples de Jésus, soit un exemple de vraie communion. Car c'est à l'amour vécu entre nous que le monde peut nous reconnaître comme disciples de Jésus. Que pourrait en effet signifier cette mission de travailler à rassembler les humains pour ensemble se libérer de toutes les forces du mal, si la communauté chrétienne n'était qu'un lieu froid et sans fraternité. Et bien plus, si les chrétiens eux-mêmes sont divisés. Le Maître nous a laissé ce précepte. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Les disciples de Jésus ne peuvent être vraiment témoins de cette lumière pour le monde qu'est l'Évangile que s'ils vivent entre eux le sel de l'Alliance, c'est-à-dire la communion fraternelle des cœurs.
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Eh bien, on ne peut être avec Jésus, lumière du monde, que si l'on est d'abord celle de la terre, c'est-à-dire une communauté où l'amour a fait alliance entre les membres de cette communauté et Dieu leur Père. Jésus nous a laissé sa présence dans sa parole et son repas, afin qu'avec lui, rien ne nous soit impossible. Maître, sur ta parole, je jetterai le filet.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs. Vous pouvez également nous trouver sur Internet. L'adresse de notre site, www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot, sans tiret. relaismontroyal.com.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.